On va revenir dans cet entretien du 18h sur les déclarations de la vice-première ministre espagnole Yolanda Díaz et les prises de position de l'Espagne dans le contexte du conflit entre Israël et le Hamas depuis le 7 octobre. On en parle, enfin, notre amie Lucie Gilson en parle avec Alfred Tovias. Il est professeur émérite du département des relations internationales de l'Université hébraïque de Jérusalem et par ailleurs spécialiste des affaires européennes et des relations entre Israël et l'Espagne. On écoute cet échange.
Bonjour Alfred Tovias.
Oui, bonjour, bonjour.
Vous êtes professeur émérite du département des relations internationales de l'Université hébraïque de Jérusalem, spécialiste des affaires européennes et des relations entre Israël et l'Espagne. La ministre du Travail espagnole, Yolanda Díaz, qui est également vice-première ministre de l'Espagne, a déclaré ce matin à l'agence de presse espagnole EFE que l'appel qu'elle avait lancé lors d'un discours la semaine dernière où elle exhortait l'Union européenne à rompre ses liens avec Israël en utilisant le slogan de la rivière à la mer n'était pas un appel à la purification ethnique des Juifs, comme l'accusent ses détracteurs, mais une façon de dire qu'Israël et la Palestine doivent partager un avenir de paix et de prospérité. Alors tout d'abord, pour commencer, qu'en pensez-vous ?
Je pense que... le chef du gouvernement, M. Sanchez, a dû convoquer à cette ministre et lui dire qu'elle a fait une erreur colossale, probablement sur base d'ignorance, mais si c'était fait exprès, c'était une erreur qui porte préjudice à l'Espagne, ça c'est clair.
Et pourquoi, à votre avis, ce slogan suscite-t-il autant de controverses dans le discours public international ? Comment c'est possible que ça a été transféré du statut de la rue, d'un slogan de manifestation, à qu'il se soit passé dans le jargon diplomatique maintenant et que ça puisse être utilisé dans les hautes sphères de l'État ?
Oui, je me l'explique. Par l'évolution d'une part démographique de l'Espagne. Il y a une population d'origine arabe importante, surtout du Maroc, plusieurs centaines de fois plus importante que la population juive qu'il y a en Espagne, si on compare par exemple avec le cas de la France, où il y a aussi une majorité d'Arabes par rapport à la population juive, mais pas si colossale. Et certains de ces habitants sont déjà espagnols, ils votent, et c'est une partie de l'électorat espagnol avec lequel il faut compter dorénavant. C'est ce que je peux dire. La gauche, l'extrême gauche espagnole est devenue ces dernières années assez radicale et je dirais même antisioniste. En partie par méconnaissance, en partie par idéologie.
Alors ça s'explique par une manière finalement de s'adresser à un électorat particulier, selon vous ?
Il y a deux types d'électorats d'extrême gauche. D'une part, ces immigrants que je vous ai mentionnés pour la question des Palestiniens en particulier. Et il y a le vote traditionnel de l'ex-parti communiste et l'électorat qui votait avant pour des partis révolutionnaires et qui, en Espagne, a un certain poids. Il ne faut pas oublier que l'Espagne est sortie en 1975 d'une dictature de droite, d'extrême droite, de 40 ans, et que donc il est facile en Espagne d'avoir une tendance à voter à gauche déjà à cause de ça. Ce n'était pas le cas dans le reste de l'Europe. mais c'était le cas de l'Espagne et du Portugal. Donc, c'est pas étonnant qu'en Espagne et au Portugal, il y ait un vote d'extrême gauche comme il n'y en a pas dans d'autres pays européens.
Alors, on sait, vous l'avez mentionné rapidement, que l'Espagne, c'est un des pays les plus critiques envers le gouvernement israélien et notamment dans sa gestion de la guerre avec le Hamas. La décision de l'Espagne de reconnaître un État palestinien pourrait-elle affecter les relations diplomatiques entre l'Espagne et Israël à long terme?
À mon avis, non. Parce que, d'après moi, cette reconnaissance est peu effective, sera peu de petite portée, car nous avons vu d'autres pays reconnaître cet état fictif de la Palestine, et ça n'a pas eu de conséquences quelconques pour faire avancer les pions de la cause palestinienne. Le propos de la démarche espagnole est de convaincre les autres pays européens de faire la même chose, disons, ce qui serait là une victoire diplomatique de l'Espagne, mais ça va être très très difficile parce que les pays principaux de l'Union européenne, à part l'Espagne, si on les compte comme pays principal, c'est la France, l'Italie, l'Allemagne et la Pologne à l'heure actuelle. La Grande-Bretagne ne compte plus. Et ces quatre pays n'ont pas l'air de vouloir faire cette démarche de la reconnaissance. Et tant qu'ils ne le veulent pas, ça m'étonnerait que l'Espagne réussisse. Et c'est lamentable que l'Espagne a décidé ceci, si vous me permettez, si on tient compte que cette même Espagne démocratique a pris 9 ans après la fin de la dictature de Franco, a pris 9 ans encore pour reconnaître l'État d'Israël qui, lui, il existait vraiment. C'est en 1986 que l'Espagne a reconnu l'État d'Israël, alors que maintenant nous avons une situation dans laquelle, à la suite du 7 octobre, l'Espagne décide de reconnaître en quelques mois un État qui n'existait pas. Donc vous voyez le déséquilibre total entre les deux démarches. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Je vous laisse à vous de juger.
Alors en revanche, en réaction, le ministre des Affaires étrangères israélien, Israël Katz, a annoncé des sanctions à l'égard de l'Espagne. Donc la restriction des services consulaires du consulat espagnol à Jérusalem et qui auront normalement des conséquences, j'imagine, sur les relations bilatérales et des deux pays et sur les résidents de l'autorité palestinienne. Était-ce inévitable et quel impact concret cela pourrait-il avoir ?
Bon, l'impact immédiat est sur les Palestiniens qui n'ont pas la nationalité espagnole, qui habitent dans les territoires, pas à Jérusalem, et qui voudraient voyager en Espagne et ils ont besoin d'un visa. Donc, ça, c'est un impact concret. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que Israël punit les Palestiniens plutôt que les Espagnols qui n'ont pas besoin d'avoir plus de touristes. Donc ce n'est pas de ce côté-là que l'Espagne va souffrir. Pour ce qui est des conséquences à long terme, je me limiterai à dire que franchement, Israël n'a pas intérêt à prendre des grands représailles, d'après moi. Elle a fait un geste fort pour dissuader d'autres pays de ne pas suivre l'Espagne. Donc, il fallait montrer qu'on était très fâchés. Mais ceci étant dit, à mon avis, les intérêts économiques, sécuritaires, de défense, culturels, etc., entre l'Espagne et Israël sont tels que il faudrait faire attention de comment on manie cet instrument des relations diplomatiques. Moi, je ne crois pas, contrairement à ce que le reste du monde a l'air de penser, que l'on peut imposer à Israël une solution du conflit. Il faut qu'Israël soit d'accord. Pour le moment, la plupart des citoyens israéliens ont l'air de dire dans les enquêtes qu'ils sont contre la création d'un État palestinien. Il se peut qu'avec le temps, il y ait une évolution. Je crois que en Israël, on fait une erreur quand on pense que on peut se passer des relations internationales et qu'Israël peut vivre en vase clos. Après tout, comme les Juifs à la diaspora étaient toujours une minorité dans les populations où ils habitaient, Israël comme pays est une minorité dans la communauté des nations. Il y a 190 pays, Israël n'est qu'un. Nous sommes que 9 millions d'habitants, ou 10, dans une population mondiale qui est 1000 fois plus supérieure. Donc, je pense qu'on s'est fait l'illusion que nous allons confronter tout le monde et on va sortir gagnant. Surtout par rapport aux États-Unis, c'est-à-dire sans les États-Unis, Israël aurait beaucoup de difficultés à vivre. Je sais que c'est un peu politiquement pas correct de dire ça, mais Israël ne peut pas vivre en isolement, déjà du point de vue économique, du point de vue sécuritaire.
Eh bien, Alfred Tovias, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes professeur émérite du département des relations internationales de l'Université hébraïque de Jérusalem, spécialiste des affaires européennes et des relations entre Israël et l'Espagne. Je vous remercie d'avoir répondu aux questions de Radio Judaïka.
Très bien, merci.